C'est l'heure de...
Hey, t'es sûr que c'est le bon bouton ?
Galéjade.
Quoi ?
Galéjade. Sur Radio Alpa, avec Geoffrey.
Bonjour à toutes et à tous, de retour dans le studio après 2 mois. J'espère que le retour en direct, ça va bien se passer parce que ça fait un petit moment que j'ai pas mis les pieds ici. C'est la dernière de 2025 et on va la finir en beauté. On se retrouve entre passionnés du 7e art, les amoureux de la péloche comme on s'appelle dans le studio. On est ici pour parler cinéma. Alors, on va parler de films qui sont peut-être un peu oubliés à certains moments, ne vous en faites pas. Il y a des gens autour de la table qui sont là pour vous expliquer un petit peu de quoi on parle et pourquoi on en parle ce soir. Alors, pour ça, il me faut des experts. Donc, j'ai réuni mes Avengers à moi. Ils sont déjà venus à plusieurs reprises dans l'émission pour la musique, mais aussi pour leur asso Beast Not Dead. Je reçois donc Marvin et Bastien. Comment ça va, les gars ?
Bonsoir, ça va très bien.
Oui, pareil, ça va. Une petite toux, mais sinon, ça va.
C'est la saison.
La saison des tout. Ouais, c'est pareil pour moi.
Ah, je me barre.
Allez, je rigole super fort dans le micro, je sature, c'est pas grave. Ils ne sont pas venus seuls, sa voix est connue de toutes et de tous. C'est un peu notre doudou et presque le co-animateur de cette émission parce que c'est déjà la 3e participation en moins de 2 mois.
Ça va savoir qu'on est ensemble, Geoffrey.
Je l'appelle papa. C'est donc le talentueux Marc Lesser qui est avec nous. Comment ça va, Marc ?
Ça va bien, bonjour à tous, ça me fait hyper plaisir d'être là.
Alors, pour aussi expliquer un petit peu le contexte de tout ça, lorsqu'on avait enregistré les émissions chez toi, Marc, ouais. On avait parlé un petit peu de cinéma oublié, et on avait parlé de Marvin et Bastien, ouais. Et là il y a un événement qui va avoir lieu bientôt, et vous êtes tous impliqués dans l'événement, ouais. Je
c'est
me dis,
crossover.
Est-ce que ce serait pas le bon moment pour qu'on en parle tous ensemble ?
Tout à fait.
Effectivement, on va en parler tous ensemble. Mais avant d'échanger sur ça, on va écouter le premier son de l'émission. Alors, vous inquiétez pas, il est pas très long, il dure que 16 minutes 32.
Oh non,
ça va venir très vite. Non, et il est un peu long, c'est vrai, mais Marvin, je peux pas te le refuser. Donc, on va écouter Ozzy Osbourne avec le titre Diary of Madman.
Excellent.
Et on revient juste après.
Excellent. Thank you.
Et voilà, c'était donc Ozzy Osbourne avec le titre Diary of a Madman. Pourquoi ce choix, Marvin ?
Cet été, en fait, je suis parti en Thaïlande et quand je suis arrivé, j'ai appris qu'Ozzy Osbourne était mort, en fait, et ça m'a fait beaucoup de peine. Qui est un chanteur qui m'accompagne depuis mon adolescence, en fait, et voilà, je voulais lui rendre hommage à la radio. C'est pour écouter de la musique aussi, donc c'était le bon endroit pour ça, quoi.
Et c'est un excellent morceau. Merci beaucoup.
C'est beau.
Je sais pas ce que j'ai encore merdé. Ah si, ça y est, c'est bon, j'ai le retour.
On perd vite l'habitude, n'est-ce pas?
Ah bah c'est clair. Et puis moi, honnêtement, je suis affreux hein, avec la console et tout, j'oublie tout le temps un machin. Mais bon, c'est bon, ça va le faire.
On n'est pas inquiet.
Donc, comme je le disais juste avant cette magnifique chanson, on est là pour parler d'un événement qui va avoir lieu le 8 janvier, si je ne dis pas de bêtises.
C'est bien ça, oui.
Est-ce que vous voulez nous en parler, les gars ?
Non.
Merci, et voilà.
Merci, bonsoir. Et à demain, si vous le voulez bien.
On enchaîne avec la suite.
Non, mais si, bien sûr, on va vous en parler.
Eh bien, je vous laisse la parole, alors.
Oui, alors, on va passer un film, en fait, pour la 63e soirée bismenstruelle.
63e, t'es un peu marseillais.
53e, pardon.
Ils sont pas d'accord.
53e, ça viendra à la 63e.
Mais j'espère que
c'est pas,
moi,
c'est pas encore. Et du coup, on passera, Classe 99, un film de Mark L. Lester. Un film américain avec des robots qui s'inspirent un peu de Terminator.
Alors je me suis trompé parce que ça c'est Mark Lesser, c'est pas Mark L. Lester.
Ouais, ouais. Vous avez pas invité le bon,
ils rentrent chez moi.
Vous avez pas invité le
bon. Il est mort, mais Mark L. Lester, mais bon, il est pas disponible en tout cas. D'accord. Pour venir, on a essayé, mais il est pas là.
Donc c'est le sosie français.
Du coup, on s'est retourné vers quelqu'un d'autre.
Donc désolé, les mecs.
La voix française d'un des personnages du film qui joue Angelo.
D'accord.
Un petit rebelle dans le film, et donc qui est joué par donc Mark Lesser.
En français.
Voilà, c'est ça, en français. Et qu'on a rencontré déjà il y a un peu plus.
Un an et demi.
Un
déjà.
An et demi, ouais, ouais. On avait fait une interview. C'était très sympa. Donc, du coup, on lui a proposé de venir et de parler de sa carrière durant cette soirée. Quoi.
Voilà.
Ok. Quelque chose à rajouter
En fait, ça faisait longtemps qu'on cherchait un film, justement, pour inviter Marc. On disait, il faut trouver un film un petit peu avec sa voix et tout. Alors, c'était pas évident, des fois, on est des films vachement obscurs, beaucoup plus vieux aussi. Oui. On se dit, là, c'est l'occasion, un film, 90, c'est cool. C'est un film qu'on aime beaucoup aussi. Ouais. Moi, j'ai déjà vu deux fois déjà, donc je commence à connaître un peu le sujet, quoi. Donc, là,
ça va être et sympa, puis, nous, quoi. C'est assez limité parce que notre créneau, c'est plus le cinéma de série B, quoi. Donc.
J'en ai fait plein.
Tu vois, j'allais te jeter des fleurs et dire, Marc, il en a fait très peu.
Non, il en a fait pas mal, c'est vrai. Mais
Non, c'était une époque où il y en avait quand même, quoi, tu vois.
Et cette époque-là, toi, justement.
Même avant.
Est-ce que tu as des souvenirs du doublage de ce film-là?
Alors, j'essaie de me souvenir avec qui j'ai fait ça. J'ai des souvenirs vagues, voilà quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas tellement de souvenirs. Ça va être rigolo de me réentendre. J'aime pas du tout, en règle générale, ce que j'ai fait dans ces années-là. C'est aussi parce que je trouve qu'il y a un doublage aussi qui est pas mal typé de ces années-là, de choses qu'on nous demandait. Si tu regardes plusieurs films doublés, un peu dans le même créneau de ces époques-là, tu vas retrouver plein de choses communes dans la façon de jouer, dans la façon même d'enregistrer, de mixer les voix. Enfin, c'est une sorte de truc de l'époque qui doit même venir de la technique, quoi, elle-même, des studios, de tout ça, quoi. Mais j'ai un vague souvenir, ouais, j'ai un vague souvenir. On verra. Ça commence à dater, quand même. Hein.
Il est de quelle année, vous avez dit, le film
1990, l'année de production, ça va être 89 et... Il est sorti en France en 90. Alors, comment... C'est une suite en plus.
Ah d'accord. Donc, ouais. Alors c'est quoi le tome 1 quoi?
C'est suite, mais en fait c'est le premier, du coup c'est Classe 84 qui est sorti en 81 je crois.
Oui je crois, dans mes souvenirs.
Et qui est un film beaucoup plus sérieux en fait, et qui est déjà un des premiers rôles de Michael J. Fox, je ne dis pas de bêtises.
Ok.
Qui était tout jeune là-dedans en fait, ça parle un petit peu d'une école... qui craint quoi. Enfin, c'est il y a beaucoup de on appelle ça une ZEB plus aujourd'hui, tu vois. Non, mais j'exagère, mais c'est vraiment une école, il se passe beaucoup de problèmes comme ça en fait. Et le deuxième est plus débile en fait. Et l'État envoie trois profs robots en fait pour mater les élèves quoi. Donc là, on part dans le level un peu.
Bah, dans le premier, voilà, on prend plus parti des profs, et dans le deuxième, on prend plus le parti des élèves.
Oui, c'est vrai. Ouais.
D'accord. Ouais. Mais alors, comment vous avez découvert ce film là?
Bah, c'est assez, le premier est assez culte en fait.
Ouais, je pensais au deuxième en fait.
Et on le trouvait assez souvent dans les caches ou genre de magasins qu'on faisait avec Bastien en fait. Donc c'est un film qui est assez accessible en fait.
Bah, et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est le même réalisateur du premier et du deuxième en fait. Oui. Donc il a décidé de faire la propre suite à son film qui avait bien marché à l'époque quoi. Sauf que là, il est parti dans un truc beaucoup plus, encore plus série B. Voir un peu, pas Z, mais pas loin quand même.
Ouais, et puis il y a un gros pari humoristique qui est voulu, en fait. C'est pour ça que c'est pas un nanar du tout, hein, c'est vraiment...
Il y a un côté décalé, quoi.
Oui.
Ouais.
Non, mais après, ce que je dis, c'est pas ce que je dis, hein, que vous passez des nanars, les gars, attention.
Ouais,
dit ça. Ils assument, en vrai, ils assument.
Hein. Ouais, parce que Marvin me dit, c'est pas un nanar, hein. Mais c'est pas ce que j'ai dit.
Non, il y a des nanars très bien. Hein.
Mais, quand t'arrives sur un doublage comme ça, toi, Marc, ouais. C'est quoi j'ai envie de dire, la directive que t'as à cette époque-là? C'était quoi les directives que t'avais quand t'arrivais?
Alors déjà,
c'était surjouer un petit peu. C'était
oui, il y a une sorte de style. Ça, dans mon souvenir, c'est un peu surjoué. Hein, il me semble tous, hein, d'ailleurs, plus ou moins. Hein, on y va pas mal. Il y a peut-être que les filles, hein, qui sont un peu plus sobres, mais les mecs, ouais, limite quoi.
Et encore.
Je pense que les mecs, du gentil jusqu'au méchant, du voyou jusque, tu vois, au gentil machin. Je pense qu'on en met tous. Je pense que les spectateurs captent très bien qui est qui très très vite quoi. Mais c'est aussi un peu ce qu'on voyait à l'image finalement, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, le problème des directeurs artistiques, des gens qui faisaient ces doublages-là, qui les préparaient, qui adaptaient, c'est qu'il y avait, pour ces films-là, ça se faisait un peu vite quand même, déjà à l'époque, on mettait pas non plus, tu vois, c'était pas comme un film ciné, on mettait pas 15 jours à les doubler, quoi, pas comme les gros films, on va dire, à gros budget, et il n'y avait pas de contact avec un metteur en scène ou un représentant, tu vois, de la prod originale, de tout ça, donc très peu d'informations sur la volonté de ce que voulait dire le metteur en scène ou un truc comme ça. Donc c'était compliqué. Quand tu avais affaire à des films un petit peu plus, je vais dire avec un peu plus de moyens et des gens plus, peut-être pas plus connus, puisque Marc Lester, il était quand même un metteur en scène reconnu, hein, déjà à l'époque, mais tu avais des directeurs artistiques qui pouvaient carrément parler au téléphone avec le metteur en scène du film. Moi, je me souviens avoir fait des trucs, des petites choses sur des films de Fellini, où le gars qui dirigeait, bah, Fellini appelait carrément sur le plateau en disant « Alors Gérard, comment ça va les doublages ?» Tu vois, etc. Et bah, du coup, il disait « Ouais, dis donc, telle scène, attends, je vais t'expliquer. » Tu vois, des trucs comme ça.
Ouais, c'est
donc, il y avait quand même des... Enfin, voilà, c'était du cinéma, il y avait quand même des relations. Mais pour ces films-là, c'était, voilà, c'était déjà considéré comme des films un peu de seconde zone, quand même.
D'ailleurs, des fois, on le voit, hein, quand on met en VO ou en VF, on dit, mais ça n'a rien à voir, en fait.
C'est, oui, c'est vrai.
Ça peut être vraiment hyper sérieux en VO, et puis en VF, on dit, oh, ils ont pété un câble, les mecs. ça dépend pas tout le temps, mais des fois, ça peut arriver. Ou même la musique est différente, des fois aussi, enfin, des trucs.
Mais des fois, ça rend le film meilleur, en fait.
Oui, on n'est pas à l'abri de ça. Ouais. Mm. Enfin, je suis pas sûr que ce soit réussi.
Parce que des fois, on a vu des films indonésiens, vraiment, des trucs. En VO, on se dit, oula, c'est quoi ce truc? Et puis en VF, du coup, ça sublime le film, parce qu'il y a une envie déjà de jouer déjà. Donc c'est...
Enfin, on ne joue pas du tout comme eux, les codes ne sont pas les mêmes. Je me souviens très bien de vieux films, effectivement indonésiens ou des trucs comme ça, qui tout d'un coup en français prenaient une dimension parfois soit marrante, soit beaucoup plus profonde que l'original.
Les accents racistes asiatiques aussi des fois.
Alors ça, c'est plus compliqué.
Et on va écouter tout de suite le son suivant.
Ça, voilà. Tout le monde n'était pas doué.
C'est une tradition ça en France. Ça.
Mais,
on a quand même Michel Leb. Hein, donc,
D'ailleurs, il sera là pour la dernière partie de l'émission.
Pour un jeu vidéo, j'ai une anecdote là-dessus. Un jeu vidéo où on devait faire des Vietnamiens. On a tous fait des accents à deux balles, évidemment, asiates, puisqu'on nous le demandait. L'AI du jeu a très mal fonctionné. On entendait un peu les deux, trois mêmes mecs qui faisaient « Américain, je te tue, toi », etc. Et on a une critique avec le directeur artistique. On adore la relire. Ça devait être dans un magazine, genre jeux vidéo, machin, de l'époque. Je parle de ça, ça a 15 ans quand même. On adore la relire. Et effectivement, les mecs disent « Ouais, la VF, pas mal, tout ça. » Mais quand même, alors tous les militaires, je sais pas quoi, vietnamiens ou je sais plus quoi, ils étaient, ils ont tous la même voix et on dirait Michel Leb qui a pris de la coke. En fait, je sais pas quoi, tu vois. Et en plus, c'était toujours la même phrase qui ressortait. Donc on s'est fait détruire. Mais la critique est rigolote à lire.
Bon, voilà. ça fait une belle anecdote.
Ça fait une belle anecdote.
Par contre, t'as dit quelque chose tout à l'heure. Ce film-là, est-ce qu'il est sorti au cinéma ou il est sorti directement en VHS à l'époque?
Pas te dire.
Je pense qu'il est sorti en salle celui-là quand même. Hein.
Ah ouais.
90, je pense que oui, oui.
Parce ouais, qu'il y a quand même toute une partie de ce cinéma qui sortait dans ces années-là. Il était directement en VHS, pas forcément au cinéma.
Bah, pas encore tellement, parce que ça devait arriver, ouais.
Par contre, il y a aussi l'inverse. Bah, il y a eu des films qui sont sortis en VHS très tardivement, voire même 20 ans après parfois. En fait. Je pense à Fantôme du Paradis de Brian De Palma, qui est sorti plus de 15 ans après en VHS. Et le doublage est vraiment tardif, en fait. Et c'est bizarre, d'ailleurs, parce que c'est un film un peu culte et...
Oui, mais c'était réservé à un certain public qui allait certainement le voir en VO dans les grandes villes, etc., etc. Je pense que les distributeurs essayaient de cibler un peu leur salle, quoi, en fait. Oui. C'est ça, le Rocky Horror Picture Show, des trucs comme ça.
Oui.
Je sais même pas s'il existe une VF sur le Rocky Horror Picture Show.
Si, il y en a une.
Ouais.
Mais avant qu'on en parle, on va écouter, et là, sans déconner, le son suivant. C'est un son que tu as choisi, toi, Bastien. C'est Blen Bailey avec le titre Likes of Me. Je le lance et on revient juste après. Si je réussis à le lancer.
Ok.
Ça y est, ça marche. C'est parti. She's cold to the heart and a man's high praise bound to shoot you down in the end. You can't hold her or her restless heart, much less her ringless hand. And with the lightning striking up above and the rain falling in my hair, I've seen her footsteps walk right over the falling of a million tears. And now I'm hollering out the gospel between the ringing of the bronze, song. But there's one thing you and I know best, and you can't help to be
thought that all the drinks he bought you, they didn't mean a damn. And you could hold your own with the devil. Hell, you could probably even call him family. And then you light up the flame of a mighty damn. Make it out alive without the likes of me. So you can make it out alive without the likes of me. Oh. You could probably even call him family. And then you light up the flame of a mighty downfall. And you could make it out alive without the likes of me. Said you could make it out alive without the likes of me.
Et voilà, c'était donc Blaine Bailey avec le titre Likes of Me. Bastien, pourquoi ce choix?
Bon, parce que j'aime bien, j'écoute pas mal de ses albums en ce moment. C'est un jeune musicien de folk country en fait. Et bon, moi je suis un grand fan de folk des années 60-70. Puis voir des mecs qui continuent à faire ce genre de musique, c'est sympa. Puis il le fait avec beaucoup de talent.
C'est clair, donc, c'est voilà. Clair. Très belle chanson, merci pour le choix musical. Si on en revient un petit peu à notre fil conducteur, on parle cinéma depuis tout à l'heure. Pour vous, aujourd'hui, ce genre de cinéma, ce genre de film, est-ce que vous avez la sensation que des films comme celui que vous allez proposer pour cette soirée, ça existe encore ou ce cinéma-là a complètement, on va dire, disparu?
Bah oui, ça a disparu. Hein. Enfin, cette manière-là, en tout cas, oui. Aujourd'hui, il y a des films qui sortent, mais qui sont un peu, qui veulent refaire la même chose, mais de manière voulue. En fait, ça, c'est chose que j'arrive pas trop à comprendre des fois. Mais
alors, qu'est-ce que tu veux dire en disant de manière
voulue? En fait, on va remettre les mêmes filtres que l'époque, par exemple, pour donner un peu l'ambiance des films des années 80 ou 70. En fait, mais c'est pas authentique. En fait,
ah,
c'est un choix artistique, mais c'est des films faits là. C'est vraiment des films d'exploitation qui étaient vraiment visés quand même pour ramener du pognon, quand même, il faut le dire. Hein, tous ces films-là, quoi. Ce qu'on appelle les films de série B, quoi. Cinéma d'exploitation, quoi, fait par des artisans. La plupart du temps, qui ne se considéraient pas comme artistes. D'ailleurs, il y en a plein d'interviews. Oh non, je suis un artisan, je ne suis pas artiste, je fais ça pour payer mes impôts. Enfin, même des gens vachement. Des fois, des trucs. Alors, mais ton film, il est bien, t'inquiète. Hein, mais, surtout chez les Italiens, d'ailleurs, qui étaient encore plus là-dessus. Ah non, moi, je fais ça pour le fric, j'aime pas ça.
Ah ouais?
Ouais.
Alors que.
Il y a un côté bricolage et spontané qui était extraordinaire et qu'on a beaucoup de mal à faire maintenant, parce que quand tu vois le coût d'un film, même si c'est pas un super film, t'es obligé un peu d'assurer et de qu'il y ait un certain rendu un peu pro qu'à l'époque. Tu vois, tu pouvais. T'étais pas tenu à un résultat. Enfin, je sais pas comment dire. Il pouvait y avoir des accidents pendant le tournage qui, tout d'un coup, faisaient de ce film quelque chose, un objet qui devenait culte, en fait, pour certains.
Ouais, après, hein. Mais assez bizarrement, c'est qu'aujourd'hui, les grands studios ne vont plus trop vers ce genre de films comme ça, en fait. Alors qu'à l'époque, des fois, il pouvait y avoir des gros studios qui aillent vraiment dans le genre à fond la caisse. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, des films qui vont être plus bizarroïdes, un peu comme ça, plus second degré, ça va être plus des cinéastes indépendants qui vont faire ça, ou des tout petits studios faits avec deux briquets de broc. Souvent des mecs qui ont beaucoup de talent, hein, d'ailleurs, hein, mais avec moins de budget, parce que celui-ci, il a quand même un petit peu de budget, quand même, pour l'époque, c'est pas si mal que ça, quoi, tu vois.
Ah oui, complètement.
Et puis, c'est, ils travaillaient bien leur truc, quoi.
Mais donc... Aujourd'hui, des films comme ça, vous dites que ça existe toujours, mais pas, c'est fait de manière plus, encore plus cachée qu'à l'époque, c'est ça?
Bah en fait, il faut dire que la fin de nous, ce qu'on appelle le cinéma bis, série B, la fin, c'est ça, c'est 90, en fait. C'est vraiment la fin du cinéma d'exploitation. Ça a commencé dans les années fin 50 et jusqu'à 90, quoi. Après, c'est fini. Il y a eu d'autres un petit peu... d'autres lancées de films comme ça, mais là, ça marche pas du tout, en fait. C'était plus... Ça sortait plus en salle, tu parlais des direct-to-video, c'était
cette époque-là,
en fait.
Début, quoi, ouais,
c'est tout le début, ouais.
Ah, c'est donc l'apparition de la VHS, pour vous, ça a eu un impact sur le cinéma. La création de films qui est devenue plus du produit commercial direct VHS plutôt que quelque chose.
C'est des films qu'on n'allait déjà plus voir en salle, en fait, quelque part. Donc, ça, déjà, ils étaient presque moins reliés au cinéma. Toi, ça devenait des sortes de. Je sais pas, téléfilms pour la VHS, quoi.
Les films étaient un peu bazardés, quoi, mais. Après, des fois, il y a des téléfilms qui sont excellents. Mais effectivement, il n'y avait pas autant de budget qui était alloué pour ces films-là qu'à l'époque. À l'époque, dans le genre, ils y croyaient vraiment parce qu'il y avait eu des gros succès. Quoi. Enfin,
est-ce que honnêtement, Terminator, par exemple, Star Wars, à mon niveau, des films vraiment comme ça, j'en ai pas doublé depuis Perpète. Par contre, oui, ce qu'on peut doubler, c'est les films d'auteur. Mais bon, c'est pas vraiment comparable non plus, tu vois. Un film d'auteur à petit budget, fait par des petits studios, effectivement, t'as raison. Ça, on peut en doubler. Et des fois, il y a des pépites, hein. il y a des perles dans ces films. Mais c'est souvent des films à tout petit moyen, alors que celui-là, effectivement, a plutôt quelques moyens. Donc, c'est vraiment un style, oui, qui a quand même disparu, je trouve.
Oui, oui. Puis maintenant, on s'est plus tourné vers un système genre, mais de films de genre. Mais un peu autorisant, je sais pas comment on appelle ça, genre des studios A24 par exemple.
Oui.
Donc ils vont faire des films alors de genre, mais pour essayer de faire réfléchir les gens. Et donc il y a un côté très sur une mise en scène très poussée. Et on oublie un peu le côté fun en fait de la série B des années 80 quoi. Tu vois.
Je suis d'accord avec
et,
toi.
Des fois ça donne des très très bons films, mais des fois ça donne des beaucoup de films qui se branlent méchamment pour dire poliment.
Non, mais je suis totalement d'accord. Ce côté divertissement, je le trouve beaucoup plus diminué dans les nouveaux films. Ou est-ce que si on veut un film de genre, automatiquement, c'est un film qui doit t'amener à réfléchir, sur lequel il faut que tu restes vraiment concentré. Tu le prends plus comme un objet.
De plus
voilà,
en plus,
ou est-ce que tu peux te poser tranquille, dire bah, c'est mon petit moment off. C'est mon Beethoven. Je regarde Beethoven 7. Et voilà, ça se passe bien. Il n'y a plus ces trucs-là.
Mais c'est vrai que c'est ça, en fait, c'est qu'à l'époque, il faut le dire, les cinémas, c'était du divertissement, en fait, c'était du spectacle. C'est ça, en fait, le cinéma, les films italiens, etc. C'était pas c'est genre, on va mettre des nichons partout pour attirer le client. C'est ça, en fait, c'était un côté un peu cirque. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des films, moi je vais les nommer, hein, comme Titan ou The Substance, en fait, qui empruntent beaucoup à d'autres réalisateurs. Ah, j'adore Cronenberg, machin.
Ça pompe, hein, même.
Mais en fait, oui, mais t'as pas du tout la même vision du chose. Et moi, j'ai dit, mais c'est quoi ce film, en fait?
J'ai pas vu.
La palme d'or du cinéma, le renouveau du film d'horreur, j'ai entendu.
T'as doublé dessus, Marc?
Non. Non, j'ai pas vu Titan, moi non plus.
J'ai dit, c'est un film français, en plus.
Oui, je sais.
C'est cool. On se dit, c'est rare, quand même.
Non, mais il y a beaucoup de redites, quand même, actuellement. Beaucoup de remakes, d'ailleurs, je trouve, des fois, ça m'étonne. Pourquoi refaire alors que les films originaux étaient bien, quoi, tu vois?
C'est ça le truc, c'est refaire un remake pour en faire un truc moins bien que l'original. C'est quand même perturbant, quoi.
Bah, j'ai vu, là.
En plus connu.
En plus polissé, comme on fait maintenant, en plus jolie image. Mais je trouve que, justement, c'est con, ce que je vais dire, mais je trouve que tous ces films-là manquent d'accidents, manquent de trucs qui peuvent se produire, et je pense qu'ils arrivaient dans tous les films dont on parle. Et voilà, quoi. Pour moi, il y a une production qui est quand même très, homogène, enfin, lissée, je ne sais pas comment dire, stéréotypée, là, maintenant. Moi, je trouve même, en termes de scénario, qu'on commence à pouvoir deviner, notamment si c'est des films de telle boîte, de telle prod, ou de tel, canaux de diffusion, tu vois, si c'est un truc Netflix, si c'est un truc Apple. On finit par voir des canevas, je trouve, carrément, dans les histoires. Des histoires très loin, tout d'un coup, tu fais bah, c'est le même scénar, en fait.
C'est la même architecture.
Ils ont des cahiers des charges, je pense.
Des cahiers des charges.
Surtout les Américains, hein, qui sont même des réels qui avaient dit que c'était obligé de mettre, entre guillemets, telle ethnie, tel machin dans le film pour que ce soit des trucs horribles, en fait.
Puis au bout de 3 minutes, il faut qu'on ait eu ça. Au bout de 5.
T'es un peu loin du micro, Marc, là.
Au bout de 3 minutes, il faut qu'il y ait tel mort. Au bout de tel truc, il faut qu'on ait une histoire d'amour, un bisou, un truc, tu sais. Ils ont aussi des trucs comme ça, du storytelling. Bon, ça, c'est encore autre chose. Je pense qu'il y a une spontanéité dans ces films-là. Tu parlais des Italiens, ils étaient experts pour ce genre de trucs. En plus, les acteurs eux-mêmes, on les laissait en roue libre. Maintenant, t'es hyper cadré dans des petites prods. T'as des coachs, des machins. bien, t'as répété avant, etc. Quand tu tournes, tu vois. Donc, je pense qu'il se passait des trucs, même dans le tournage, où le mec disait « Ah, c'est cool ça, je vais le garder au montage, tu vois. »
Non, mais c'est ça, il y avait un peu des tournages commando qui donnaient des trucs un peu plus instinctifs, un peu au film et...
C'est pas toujours réussi, mais ouais. des fois, ça crée des moments un peu forts.
C'est pas toujours réussi. Même des catastrophes. Tout à l'heure, on parlait de Kloskinski, on était en off, je crois, mais... Bon, Werner Herzog, c'est pas forcément de la série B, mais des films chaotiques où j'en fais même se tuer sur les tournages, enfin, des trucs de
ouf,
quoi,
oui,
qui n'arrivent plus aujourd'hui, parce que c'est...
Oui, oui, ah bah les assurances ne voudraient pas, ils ne pourraient même pas aller le tourner là où ils l'ont tourné.
Ah non, Amazonie, avec
des... portaient un bateau au travers de la jungle, ils l'auraient fait.
Ils sous-payaient les mecs qui devaient porter les
ils l'auraient fait dans la banlieue de Paris, deux balles dans un studio, quoi. L'assurance aurait coûté plus cher que le film, en fait, si tu veux.
D'accord. Mais le cinéma italien, pareil, pour vous, ça a disparu ces films, enfin, même en Italie.
Mais le cinéma italien, il existe toujours un peu. Mine de rien, ça a vraiment plongé. Hein. Contrairement au cinéma français qui se porte plutôt pas mal.
Ouais.
Regardez le nombre de films italiens que vous voyez en France aujourd'hui, c'est très
justement,
tarané,
j'en vois
quoi.
Pas quoi.
Et ouais, alors des ouais. films de genre italien, je sais même pas s'il y en a un. Bah, en fait, l'année, quoi. Ça n'existe plus.
Ça, c'était Joe D'Amato qui l'avait dit. Hein. Il avait dit bah, le cinéma d'exploitation italien s'est arrêté en 90. Je disais en fait, c'est qu'à l'époque où ça ne marchait plus, où ça ne leur rapportait plus d'argent. En fait, et à l'époque, ils faisaient ça que pour l'argent, comme il disait. Ils se sont dit, bah moi, ça me rapporte plus, donc j'arrête. La plupart ont arrêté, d'autres sont lancés dans le porno aussi, en vidéo, etc. Parce qu'il n'y avait plus de tournage en 35 mm, parce que ça coûtait trop cher.
Ouais.
Que la vidéo qui est arrivée, une vidéo qui est quand même.
Les labos disparaissaient.
Bah oui, et puis la vidéo, c'est quand même moins bonne qualité. Hein, ouais. Mais ça qui est marrant, hein, c'est italien, c'est qu'à la base, les techniciens, des fois, des films de Fellini, etc., étaient les mêmes que sur certains films bis ou western, en fait. Donc ça qui est cool, en fait. C'était les mêmes cinémas, quoi.
Puis le faire pour l'argent ne veut pas le dire qu'on le fait pas bien avec l'amour du cinéma.
C'était les pros, hein.
Voilà, quand c'est fait par des professionnels qui font leur métier correctement, automatiquement, ça se voit aussi à l'écran.
Et puis ça a donné vraiment des mecs absolument génialissimes, des Dario Argento.
Bien sûr.
Des personnages comme ça, quoi.
Avant qu'on enchaîne, parce que ça passe vite, on va écouter le son suivant. C'est un son que tu as choisi, Marc.
Ouais.
C'est donc Neil Young avec le titre Heart of Gold. Et on revient juste après.
Ouais.
Thank you.
Et voilà, c'était donc Neil Young avec le titre Heart of Gold. Merci Marc. Pourquoi ce choix ?
Parce que c'est pour ça que je fais de la musique, en fait. C'est vraiment ça. Si je devais réduire, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de jouer de la guitare et de chanter, chantouiller des chansons en m'accompagnant. C'est ces disques-là, en fait, quoi, toute cette période-là.
D'ailleurs, un concert prévu bien prochainement ?
Pas encore, non, pas encore, mais je vous dirai.
Ah, et voilà, troisième partie, dernière grosse partie de l'émission, où est-ce qu'on va continuer de parler un petit peu de cinéma. La dernière fois qu'on s'est vus, les gars...
attention, alors,
non.
Attention.
Non.
Laquelle ?
Tous Oula, ensemble.
Ça va faire mal.
Non, tous ensemble. Tous oui. ensemble. Ouais. Okay. C'était pour le film Running Man.
Ah oui.
Que vous aviez diffusé avec Arnold Schwarzenegger. Ah, oui. On avait parlé de...
Je suis un peu déçu.
Non.
Vous avez été voir le nouveau cool, ou pas ?
Oui, tout à fait. Alors moi déjà, je pars du principe que j'ai lu le bouquin, en fait.
Ok.
Bien après avoir vu le film,
c'est
dire que j'adorais gamin.
Il fait ses devoirs et tout, il lit le livre, il voit les films, tout. Pas, ouais.
Alors j'avoue que celui sur Schwarzenegger, quand j'ai lu le livre, je fais bon, à part le nom du personnage, il n'y a pas grand-chose à voir avec le livre de Stephen King, qui avait déjà pompé le prix du danger d'Yves Boisset déjà. Mais le nouveau, en fait, il est quand même beaucoup plus fidèle au livre. Moi, je le trouve un peu débile comme film, quand même, faut le dire. Un peu long aussi.
Ouais.
Mais bon, je trouve que ça fait le taf, c'est un film d'action, voilà.
Moi, j'ai aimé les deux tiers, trois quarts du début. Et la fin, j'ai fait, bon, bah allez. Merci Hollywood.
Ouais. Mais à ce côté-là, ouais, qui est un peu chiant, quoi. Ça veut dénoncer les États-Unis, mais en même temps, pas trop, quoi. Tu vois, faut pas non plus... ça va pas à fond, en fait, je trouve, c'est dommage.
Vous, ouais, les gars,
le fait d'avoir changé la fin aussi par rapport au bouquin, et l'avoir rendu en happy end, en fait... Ça, c'est aussi un peu... Bah, c'est Hollywood, quoi, voilà. Je pense que Edgar Wright, il n'avait pas trop le choix, quoi, je pense.
J'ai pas vu, moi, le nouveau, donc je dirais rien là-dessus. Mais ce que vous dites là me parle de l'ambiance générale d'Hollywood en ce moment, quand même, quoi, tu vois. Et quand j'ai revu le film avec vous, c'était vraiment super cool. Et je trouve qu'il y a ce charme de ces films-là, de dire, oui, dès le départ, tu sais que c'est pas... Enfin, tu t'attends pas à avoir un chef-d'œuvre, mais moi, je suis hyper bon public, en fait. J'adore. Je me laisse embarquer très vite et j'ai passé une super bonne soirée. Hein.
À l'ambiance, moi, j'adore aussi, même le côté peinture. On voit que c'est pas nickel, en fait. Mais sa vie est mieux que les CGI aujourd'hui, par exemple. Les peintures, les choses chaudes.
Puis ils arrivaient à t'amener dans leur univers aussi, mais très rapidement, en fait, avec des petits détails. Et
le truc qui était super, c'est cette ambiance qu'on avait d'être tous dans la salle pour regarder le film, quoi.
Mais, ouais.
Enfin, moi, je trouve que ça apportait vraiment un plus. Je pense que si je mettais le film... Excuse-moi, Marc. Si je mettais le film à la maison, j'aurais peut-être pas été aussi assidu, j'aurais peut-être pas regardé en entier, j'aurais sans doute été sur mon téléphone. Là, honnêtement, il y avait quelque chose, on était bien, quoi.
Je suis d'accord avec toi, je pense que c'est surtout ça qui nous manque aussi. Alors, c'est compliqué, hein, notamment quand t'habites pas dans une grande ville, sortir de chez toi, trouver un cinoche, etc. Mais le plaisir du cinéma est à plusieurs, soit des gens qui se connaissent pas, soit entre potes, quoi. Être dans la salle, ça, je trouve que ça change énormément de choses dans comment tu reçois le film, quoi.
On est d'accord.
Mais je vais te dire, alors je vais vous dire un truc, même nous, pour enregistrer, on a des très beaux studios, hein, mais quand j'étais gamin, je me souviens vraiment de studios, notamment un qui s'appelait SPS, qui est devenu, je sais pas quoi, un immeuble maintenant, et qui était une vraie petite salle de ciné, mais un studio. C'est-à-dire que tu avais vraiment ce côté, il manquait plus que les sièges en velours rouge, quoi. Bah, l'ambiance même pour nous travailler... C'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
On a un côté et que t'es là pour bosser et en même temps t'es un peu spectateur, t'as un écran énorme, c'était une vraie projection à l'époque, du vrai film, tu vois.
Et puis tu regardes les copains qui enregistrent?
Tu regardes les copains qui enregistrent, tout ça, tu fais ah, c'est bien, là on est bien pour faire du cinéma. Enfin, toi, c'est du cinéma, quoi. Même pour nous à ce moment-là.
Parce qu'aujourd'hui, dans les studios d'enregistrement, c'est comment?
Ça dépend, tu as des choses, non mais t'as des studios magnifiques, t'as des trucs, c'est des avions de chasse, les trucs, quand tu fais des grands films, t'as des studios très grands, plein de micros super, tu vois, plein de possibilités maintenant.
Comparé à Radio Alpa, c'est un peu plus ou un peu moins?
Ah, c'est juste ça, moi, qui m'intéresse. Alors, comment ne pas être vexant, tu sais. Comment te dire, voilà quoi, ok.
Voilà. Ok, c'est bon, j'ai compris.
La différence entre
le micro de Marc, c'est lequel déjà? Allez, c'est coupé.
J'avais une question, moi, d'ailleurs, par rapport à ça, parce que des fois, on entend beaucoup de gens maintenant, c'est devenu aussi à la mode de critiquer les VF depuis quelques temps, je trouve.
Je trouve que ça s'est un peu atténué. C'est d'un...
Ouais, mais après, oui, chacun son truc. Mes parents aussi. Est-ce que vous avez aussi parfois les scripts à l'avance des, je parle des grands, des films genre les Star Wars, des machins, où parfois on a que des bouches à doubler.
Non. Alors, on a même encore moins d'infos sur les gros films que sur les petits. Tu vois, parce que les petits, l'intérêt est moins. Maintenant, quand tu es sur un gros film, il a même un code. C'est-à-dire que quand tu arrives au studio, il y a des trucs d'affichage. Tu dis, ah, c'est quoi le code? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Genre, tu vois, tu n'as même pas le vrai nom du truc. Même pour des séries maintenant, hein, parce qu'il y a beaucoup de compétition.
A Stranger Things.
Mais ça s'appelle pas comme ça quand tu y vas.
C'est vrai.
Tu vois, et. Mais même une série, je te parlais de Silo, là, hors antenne. Mmh. Silo, quand je suis arrivé au studio, je dis, mais je la vois pas, je suis gouré de studio. Et puis finalement, tu vois, j'appelle le gars qui m'avait convoqué. Il me dit, non, ça s'appelle comme ça. Ah bon, d'accord. Tu vois, je cherchais. Et sur le coup, on n'avait pas le droit de dire ce que c'était. Donc, et puis quand tu as les bouches, les trucs, non, tu ne vois rien. On voit même pas les films avant. Il est arrivé il y a longtemps. Bon, pour certains gros films, tu peux voir les films avant. Mais du coup, si t'as un rôle important, ça peut arriver. Même quand t'emmènes, y a même des copains qui sont partis à Londres voir, tu vois, une projo. Mais alors là, tu signes des contrats, des clauses de confidentialité. Mmh. Je te dis pas, c'est plus épais que ton contrat de travail, en fait. Donc, non, on a rien. Et puis, c'est un peu un principe de notre métier aussi. C'est qu'on arrive, des fois, on ne sait pas ce qu'on va faire.
Ouais.
On n'a pas vu, on n'a pas lu. Tu ne sais même pas si tu vas rester toute la journée, tu sais, tu as tes horaires de travail quand même, mais voilà.
Moi, c'est toujours le truc qui m'a impressionné. C'est, t'arrives le matin, quand t'es acteur sur un plateau, on te dit aujourd'hui ça va être scène extérieure, tu vas courir pendant 20 minutes, enfin tu sais que c'est la scène d'action, c'est la scène de course, ouais. Tu te prépares. Toi, t'arrives le matin, t'es là, tu bois ton café. Bon, bah alors là, il va faire ça.
Il y a des ambiances de dingue parce que des fois, tu te fais même attraper. Moi, je me souviens avoir passé une belle journée. J'avais déjà enregistré un autre truc plutôt rigolo. Et puis, on m'avait dit, oh, allez, viens en fin de journée, je te ferai toutes tes boucles. J'ai un beau rôle pour toi et tout. C'était José Lucioni, je me rappelle très, très bien, sur une de ces séries de flics là, qui dirigeait. Et j'arrive... Et je fais un tueur de mômes qui les découpe en petits bouts, qui les a éparpillés dans les sacs poubelles. Et moi, je venais de passer une belle journée ensoleillée, j'avais fait un truc rigolo avant. Et là, t'arrives en fin de journée, et je te jure, j'y ai fait « Ah, attends, je vais aller dans le jardin vomir, puis je reviens, quoi. » Et non, mais j'étais, ça m'a remué d'un coup. Après, c'était super à faire. J'adore faire ce genre de truc. Mais on se fait attraper comme ça. Tu peux arriver le matin, 9h30, bonjour, tout va bien. Oui. Puis à 9h35, t'es en train de gueuler comme un putois parce que t'as un tyrannosaure rex qui veut te dévorer, tu vois. Mais c'est cool. C'est aussi ce qu'on aime dans le doublage. Il y a une soudaineté, une petite montée d'adrénaline que tu as moins dans les autres choses qu'on pratique, tu vois.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quand vous avez parlé de certains films français, où est-ce que vous disiez que vous aviez la sensation que le doublage français rapportait quelque chose en plus sur le film. C'est aussi peut-être cette spontanéité-là.
C'est évident, parce qu'en fait, les castings de doublage d'une série B ou Z étaient le même qu'un film classique. En fait. Tu parlais justement de José Luciani qui doublait Al Pacino. En fait. Doublait des films italiens de plagiat d'Indiana Jones. En fait. Moi, je dis, putain, c'est la voix de... Pacino, quoi. Ouais. Les mecs, à la même époque, ils faisaient Pacino et d'autres trucs.
En fait, on a doublé. On est intermittent du spectacle, faut qu'on bouffe aussi, faut faire ses heures, enfin, tous les problèmes, etc. C'est précaire comme boulot, même si ça donne pas l'impression. On n'est pas des vedettes ni au théâtre, même si on a fait tous des tas de choses, on n'est pas des vedettes au théâtre, ni au cinéma, ni à la télé. Donc, on a tous fait un tas de trucs, mais on n'est pas des vedettes. Et le doublage, ça a aussi été, il y a un intérêt aussi économique, quoi. Faut pas l'oublier. Mais par contre, on y a mis souvent tout notre petit cœur, même dans des films à deux balles ou des séries à deux balles.
Ça, on l'entend souvent, on le ressent. Ouais.
Notamment dans les séries, tu vois, moi, je suis invité souvent dans les conventions, on me parle beaucoup de toutes les séries que j'ai fait au moment du Club Dorothée, par exemple. Et bon, il y en a qui ont moins bien réussi, mais par exemple, quand on me parle de Parker Lewis, qui était quand même un objet très particulier, même pour l'époque, bah, franchement, quand ça s'est arrêté, on a tous chialé, quoi, tu vois, parce qu'on adorait faire cette série. Et on la faisait aussi bien qu'un animé, tu vois, où on comprenait que dalle à côté. Tu vois, on essayait, en tout cas, on essayait.
Si je recentre légèrement sur le cinéma, aujourd'hui, les films dont vous parlez, que vous projetez fréquemment, si des gens veulent se les procurer, ils les trouvent où, ces films-là?
Bon, la plupart sont sortis en édition physique. Celui-là, bah, Classe 99, il est sorti en Blu-ray. Donc,
ah ouais, voilà, d'accord.
Ouais. Ah ouais, carrément, ils ont refait un Blu-ray. Ah,
je sais
pas
plus
mal.
Qui l'a sorti, c'est
ESC. Mais pas tous. Hein,
Mais des fois, c'est plus compliqué.
Des fois, on peut pas trop.
Ouais, non, parce que justement, bah alors, je vais les mettre les pieds dans le plat parce que c'était ma question. Est-ce que vous pensez que les sites pirates contribuent aujourd'hui à sauver ce cinéma?
Ah bah complètement, parce qu'il y a même des films complètement oubliés des fois qu'on cherche depuis longtemps. Ah, on les voit, après on se dit ah merde, c'est une merde, donc c'est pas grave. Mais les films comme c'est une chasse au trésor en fait, hein, des films. Même des films asiatiques ou des films de je sais pas d'où, des trucs qu'on voit dans une qualité VHS horrible parce que c'est un mec qui l'a numérisé lui-même et tout. Ouais. Ça, c'est cool en fait. C'est d'échange aussi avec certaines personnes sur Internet.
Parce que, ouais, voilà.
Mais il faut dire aussi que l'édition française fait vraiment un boulot de taré. C'est vrai. Vraiment, depuis qu'on suit ce genre de cinéma, je trouve que ça s'est vraiment amélioré l'offre de. C'est ouf maintenant, moi. Franchement, mon portefeuille, il y a certains mois, il explose parce que je mets tellement de trucs sur ma liste.
Bah oui, quand on a commencé l'assaut, déjà. C'était un peu pauvre. Ça commençait déjà un peu. Il y avait Jacques qui fait Martus, mais maintenant, depuis 2-3 ans, là, c'est vrai que ça, tous les mois, il y a un. Ah, tiens, machin, il ressort ce film-là ou machin.
Ouais, surtout dans le cinéma asiatique, ça a vraiment explosé.
Et c'est vrai qu'on peut pas, en fait. Il sort quasiment en Blu-ray tous les mois.
Moi, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt de faire revivre ces films, même si certains sont pas terribles. Ils ont de toute façon souvent un intérêt parce que quand tu regardes qui y a participé et tu regardes leur carrière après, tu retrouves des gens qui ont pu faire des trucs magnifiques derrière. Ça peut être leur début de carrière, donc ça a quand même un intérêt pour les gens qui aiment ça, évidemment. Et puis, il faut que ces films existent. Ils ont été faits. Moi, je trouve qu'il y a la disparition de ça me fait bizarre, quoi. Je me dis qu'on n'a plus accès. Et je trouve que oui, il y a des gens, effectivement, qui font un super boulot. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a un trou, ce que je te disais sur certains films, sur Internet, quand tu regardes, mais même pour les versions originales, je ne parle pas que pour les VF, sur des films qui datent un peu avant 90. Moi, je sais que j'ai fait du doublage, donc tout gamin. Et il y a des films, je ne vois pas. On n'a pas la distribution. Des fois, même originale, elle n'est pas complète, tu vois. Et il y a des beaux films qui ont dit un peu disparu parce qu'ils font pas partie des grands films qu'on a étudiés, etc. Et ce que vous faites tous les deux, c'est une façon de faire revivre aussi de tous ces films-là, quoi. Au-delà du côté souvenir et du côté nostalgique, certains peuvent avoir.
Un mot à rajouter, les gars.
C'est dur.
C'est beau, c'est un beau compliment.
Ah bah complètement, oui. Il y a aussi un truc que je veux rebondir, c'est aussi des fois j'entends toujours gueuler sur Facebook, parce que c'est vrai que ça gueule beaucoup sur Facebook. Ils repassaient Les Dents de la Mer cet été, en fait. Ils se disent oh putain, il y a eu un redoublage il y a 15-20 ans, je crois.
D'accord.
Et c'est parce qu'il y a eu une version longue, en fait, donc vu que tous les comédiens de doublage d'époque étaient morts, en fait, genre comme André Valmy, tout ça, ils étaient morts depuis longtemps, Jacques Thébault, etc. Ils ont redoublé, en fait. Et j'avoue que quand on revoit, ça peut faire bizarre quand on est habitué depuis gamin, en fait, mais il ne faut pas non plus hurler, quoi.
Parce que ça sert à rien d'hurler. On vieillit, il y a les copains qui disparaissent. Il y a aussi des VF qui disparaissent, bizarrement, qui n'ont pas été gardés, ou il y a
Disney,
des trous dedans.
Disney, c'est les propos pour ça. On a doublé plein de fois.
Donc, là, par exemple, je suis revenu faire des petits retakes dans une série que Netflix a rachetée. Et je comprends pas pourquoi. Genre, ils ont tout, sauf certains épisodes. Et puis, pas l'épisode entier. Donc, va savoir.
D'accord.
Et Disney, il y a des gens qui ont travaillé, qui m'ont envoyé. Moi, j'avais fait le Pinocchio, qui m'ont envoyé. Ils ont réussi à retrouver, ça a été un boulot de montage de dingue, la toute première version de Pinocchio en VF, pour faire une comparaison des deux. Donc, on a fait toute une émission là-dessus. Quoi. Très dur. Ils ont galéré, ça faisait plusieurs années qu'ils bossaient là-dessus. Ouais. Mais c'est chouette, moi, j'aime bien. Pardon.
On va écouter le son suivant, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. C'est donc Solane avec le titre Rome, et on revient juste après.
Je me sens comme un agneau qui dit pardon au loup d'avoir été trop lent à lui offrir son cou, d'avoir pris trop de place, d'avoir trop résisté, d'avoir vu sa robe de rouge se tacher. Cette jungle, toi, des mea culpa, l'appel à marcher entre Rao et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Je ne veux plus supplier. Soleil de minuit, qu'on me rende ces fêtes qui comblent mes instants. se pose sur ma cuisse. Cette ville me doit des mea culpa, la chaîne. À marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi. Faire cracher leur venin debout. Et je mangerai leur langue si c'est le prix du silence. Je mangerai leur langue si c'est le prix du silence.
Et voilà, c'était donc Solane avec le titre Rome. Nous sommes toujours dans Galéjade et c'est la dernière partie. Ouais, ouais. Ça a été pas trop mal mené?
Ça va. Même pas mal.
Donc, pour conclure l'émission, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que vous voulez qu'on aborde dans, sur le sujet, sur le cinéma? Je pense qu'il y a plusieurs choses, mais s'il y a un point que vous voulez absolument qu'on échange avant la fin?
Ah bah moi, je reparlerai d'aller au cinéma, en fait. Aller en salle avec vos potes, traîner votre famille, même si sur le coup, ils traînent un peu des pieds. Voilà, et puis allez pas toujours voir des gros blockbusters Hollywood. Ouais. Fouinez un peu, il y a plein de belles choses, et puis et même si vous êtes un peu déçu, c'est pas grave, ça fait partie aussi, je trouve, du cinéma.
Et alors, justement, d'habitude je fais les recommandations culturelles en fin d'émission. Là, je vous ai pas demandé, mais je me dis, est-ce que vous avez un classique, un film que vous voulez absolument partager aux gens, dire celui-là c'est un truc qui moi m'a marqué et que j'aimerais faire découvrir. Alors, vous marrez parce qu'il y en a peut-être plus d'un.
Non, je sais pas, mais oui, il y en a plus d'un.
S'il y en a un qui vous pop en tête, un film...
Phantom of the Paradise. Pour les plus jeunes, allez voir Phantom of the Paradise. Brian De Palma. Avec la musique d'un gars qu'on a oublié qui s'appelle Paul Williams, qui avait aussi fait un film que j'ai doublé qui s'appelait Bugsy Malone. Vous pouvez voir Bugsy Malone aussi, c'est des mômes qui font des truands, ça a un certain charme.
Il doublait le pingouin dans la série animée des années 90. Ouais. Philippe Pétu en VF et en VO, c'était
Paul Williams. Ouais. Et un mec qui a écrit plein de musique pour des tas de gens qu'on a un peu oublié, qui est toujours en vie d'ailleurs, et qui est un super musicien. Et Phantom of the Paradise, moi, c'est un peu un film culte pour moi, plein de raisons. Et il fait partie de ces films, on sent qu'il y a aussi, il y a du boulot, il y a un sujet, un vrai sujet à défendre, et en même temps je pense qu'il y a plein d'explosions d'impro, de trucs, et avec des gens mais d'un talent de malade à tous les niveaux, hein, partout, pas que les acteurs.
La musique est géniale en plus,
j'adore.
Au fond, c'est un grand film, hein.
Vous, les gars?
Moi, c'est toujours c'est classique, hein. J'aime beaucoup de choses, mais j'avoue qu'il y a des films qui reviennent souvent, surtout quand j'ai un petit coup dans le nez d'ailleurs. Ça va être les Star Wars, Indiana Jones, Aliens, Terminator. En fait, ça revient tout le temps, hein, ce genre ce petit noyau de films qui m'a un peu conçu un peu mon amour du cinéma, en fait. Donc, Terminator, je regarde une fois par an, en fait, minimum, quoi.
Ah ouais?
Ah oui, oui. D'accord. Puis, au moment où j'ai raté l'avion aussi.
Même le 5 et le 6?
Non. Non, les deux premiers, les deux premiers. Alien, pareil, les 4. Alien,
j'ai vu dans le regard de Bastien comment il m'a jugé.
Ah, parce qu'il y a 5 et 6.
Geoffrey, provocateur, Geoffrey.
Jusqu'au bout. Et toi, Bastien?
Bah, du coup, là, j'ai re-regardé un film que j'adorais plus jeune.
Ouais, si tu peux parler plus proche du micro. Ouais.
Les Guerriers de la Nuit de Walter Hill. Et franchement, leur voyant, c'est tellement dans son jus, années 80. Parce que plus jeune, avant de voir le film, j'étais un gros fan du jeu vidéo sorti chez Rockstar Games, qui est un banger absolu, un de mes jeux préférés. Voilà quoi. Rockstar, c'est toujours de la bonne qualité. Et du coup, on va certainement le passer très bientôt, ce film-là de Walter Hill. Donc voilà, pour ceux qui aiment les mecs habillés en cuir, dans des gangs la nuit et tout, c'est un classique.
D'ailleurs, qui n'est pas si éloigné que ça que de Classe 99, presque. Hein. Enfin,
oui, bah, et puis le cinéma commun, italien l'a pompé, notamment avec des films comme Les Guerriers du Bronx, des choses comme ça, quoi. Voilà, quoi. Donc, c'est cool, quoi.
Et moi, donc récemment, je me suis rematé le Y a-t-il un flic pour sauver la reine. Et honnêtement, putain, les As... Enfin, y a pas, ils sont forts. Ils étaient forts en termes d'humour, de décalage. Il y a un gag toutes les, je sais pas, toutes les 10-15 secondes.
C'est des films qu'il faut voir plusieurs fois, d'ailleurs.
Ouais, si tu veux. Enfin, tu... Ouais. Il y a plein de trucs que tu vois pas tout quoi, quand tu
les souvent, revois. On les a vus gamins, donc on n'a pas tout chopé. Et quand tu es un peu plus vieux, des sous-entendus que tu n'avais pas vraiment chopé avant.
Ah, puis même des gags que tu comprenais pas quand tu étais gamin, que tu comprends quand tu étais adulte. Là, moi, celui qui me revient en tête, c'est quand ils ont mis la silhouette d'un mort, mais dans la mer. Donc, tu as la silhouette du corps, mais bon, le truc, il bouge. Ouais, ça me tue. Bah, j'ai revu ça il y a pas longtemps. Voilà, fallait que j'en parle un petit peu ce soir.
Jean-Claude Michel, il est excellent là-dedans en doublage.
Ouais, il était magnifique.
Parce que il peut te faire un Clint Eastwood hyper con réac et après il va te faire Leslie Nielsen qui est complètement con. Ouais.
Et il a génial, ce décalage en plus quand il faisait justement, tu vois, ces trucs-là. Y a-t-il un pilote dans l'avion et tout. Il avait complètement. Il savait mettre ce petit truc tout en étant sérieux. Le petit clin d'œil, on le sent vraiment dans la voix, quoi. Et il maîtrisait ça super bien.
On arrive à la fin. L'heure a sonné. Donc, soirée Bis Not Dead, la prochaine, c'est le 8 janvier au Royal au Mans, avec Marc Lesser en invité pour la projection du film Classe 99.
Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça.
Donc, enfin, 20h, je pense, on fait un petit peu rencontre.
Ouais,
aussi,
20h, on va essayer de. Si vous voulez venir à partir de 20h pour boire un petit godet.
On ramène des cahuètes. Voilà,
si vous avez quelques DVD aussi à faire signer à Marc Lesser, n'hésitez
pas. Avec plaisir.
Les 40 mangas.
Les 40 animés.
Tu rigoles, mais Marc, je lui ai fait signer qu'un truc lors de la première émission et j'ai toujours plein de trucs à la maison. Je me dis, quand je le reverrai, il faudrait que j'y fasse signer ça. Et j'y pense jamais.
Vous êtes trop proches maintenant, c'est pour ça.
Ça dépend, tu sais ce qu'il faut pour m'acheter maintenant des petits oursons chocolat guimauve et je sais ce que tu veux.
C'était payant.
C'est merci. Pas cher.
Marc, on peut te retrouver toi aussi. Bah donc, les gars, vous êtes sur Instagram avec l'asso Bis Not Dead.
Oui, Facebook. Ouais.
Facebook aussi.
YouTube aussi.
Moi, je suis plutôt sur Instagram mais aussi sur Facebook. Marco on the web.
Parfait. Si vous voulez retrouver l'émission Galéjad sur Instagram, c'est Galéjad underscore émission. Je rappelle que le underscore, c'est le tiré du 8. Si vous voulez me retrouver sur Facebook, c'est galéjad.émission. En podcast sur le site de Radio Alpa et sur toutes les autres applis de podcast. Si vous écoutez le direct, ça va démarrer tout de suite avec Vertige. Si vous écoutez l'Ardif, on va enchaîner avec Oblique. Et si vous écoutez le podcast, vous avez bon choix. Vous avez très bon goût, je veux dire, puisque vous avez choisi un épisode de Galéjad, encore une fois, merveilleux. Je vous remercie tous d'être venu.
Merci beaucoup à toi.
Merci à bonne fête aussi.
Merci.
Et bonne fête de fin d'année.
Oui, à vous aussi.
C'est l'heure de...
Hey, t'es sûr que c'est le bon bouton ?
Galéjad.
Quoi ?